tous. L'exposé de ce mois-ci a été préparé par Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et le thème porte sur la mise en place de l'État et son rôle. Dans cet exposé, Marc, tu abordes la mise en place de l'État moderne, l'État républicain. Quand les politiciens ou le gouvernement évoquent l'État comme étant le défenseur de l'intérêt général, est-ce que c'est une réalité ?
Eh bien, pas du tout. C'est même, nous ne le pensons pas du tout, et c'est même pour ça que nous avons tenu à faire cet exposé, parce que on est confronté tous les jours à cette idée que l'État représente l'intérêt général, que c'est lui qui a pour mission de lutter contre l'épidémie, c'est lui qui doit sauver l'économie et tout ça, donc soi-disant dans l'intérêt de tous. Tous les politiciens, tous, depuis Macron jusqu'à Mélenchon, depuis le Rassemblement National jusqu'au Parti communiste, nous expliquent que s'ils arrivaient aux affaires publiques, à la direction des affaires publiques, eh bien, ils gouverneraient dans l'intérêt général. Parce que l'État, c'est son rôle, il est là pour ça. Soi-disant, on nous l'affirme tous les jours, c'est représenter l'intérêt de tous. Voilà. Et nous pensons que c'est quand même un mensonge, une escroquerie politique. Parce que quel intérêt commun pourrait-il y avoir entre la famille Peugeot, la famille Michelin, qui ferment leurs usines en ce moment pour augmenter leurs profits, et les travailleurs de ces entreprises qui se retrouvent privés du seul moyen de vivre? À notre avis, il n'y a absolument aucun intérêt commun. Et au contraire, leurs intérêts sont opposés et d'une façon irréductible. Et c'est ce que nous avons voulu montrer à travers cet exposé. Bah, finalement, c'est que ces intérêts, c'est que l'État, eh bien, il est un instrument au service des intérêts de la classe dominante. Et pour reprendre la formule lapidaire d'Engels, qu'est-ce que l'État ? Eh bien, l'État, ce sont des détachements spéciaux d'hommes armés et des prisons. Voilà, c'est comme ça qu'il définissait. Et ça en faisait un instrument au service de la classe dominante et destiné à aider la classe dominante à mater la classe exploitée. Voilà. Alors c'est ça que nous avons voulu montrer à travers cet exposé, et à travers l'histoire de la mise en place de l'appareil d'État moderne, eh bien, nous avons voulu montrer comment ça a toujours été un instrument au service des classes possédantes, et comment à partir d'un certain moment, ça devient vraiment l'appareil au service des intérêts de la bourgeoisie. Et ça ne peut être que cela. Et c'est très important, à notre avis, pour les travailleurs de bien comprendre cette idée, parce que pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs emplois, pour défendre leur peau, pour défendre l'avenir de la société, parce que nous pensons quand même que dans cette période de crise, l'avenir de la société dépend de l'intervention des travailleurs, eh bien, il faut qu'ils comprennent que face à eux, eh bien, ils auront cet appareil d'État comme un ennemi irréductible, qu'ils auront à le détruire, de façon à pouvoir eux-mêmes s'emparer du pouvoir politique et changer ainsi la société. Et ça, c'est vraiment une question importante, et c'est vraiment le sujet en fait de l'exposé d'aujourd'hui.
Donc, pour expliquer la mise en place de l'État moderne, tu remontes au Moyen-Âge et tu expliques dès le début, en fait, la bourgeoisie, elle s'est développée en essayant de s'appuyer sur l'État.
Absolument, parce que justement, là, la bourgeoisie, c'est une classe qui se présente un peu comme c'est la classe des entrepreneurs, la liberté d'entreprendre, l'aventure, le goût du risque, tout ça. Bah, ce qu'il apparaît au travers de son histoire, c'est qu'en fait, depuis le début de son développement jusqu'à nos jours, elle a toujours eu besoin pour se développer, pour ses affaires. À tous les moments de son histoire, elle a eu besoin de l'intervention de l'État. Et je remonte au Moyen-Âge parce qu'en fait, on s'aperçoit que pendant toute une période de son développement, eh bien, c'est un État qui n'est pas à son service, c'est pas le sien, mais c'est un État qui intervient pour favoriser son développement. Et cette situation, elle est quand même un peu particulière, et j'ai voulu l'expliquer. Et ainsi, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant le Moyen-Âge, si on voit comment se développe la bourgeoisie durant cette période, elle est un peu comme un corps étranger dans ce système, parce que c'est un système dominé par les seigneurs. Si on remonte au début du Moyen-Âge, hein, chaque seigneur vit dans son domaine, et il a ses paysans, c'est lui qui fait la justice, et ils vivent en autarcie. Bon. Et donc, finalement, la bourgeoisie là-dedans, le marchand, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre toutes ces petites cellules isolées les unes des autres, et très rapidement, eh ben, la bourgeoisie va devenir indispensable aux seigneurs. C'est elle qui leur fournit des draperies qui viennent des Flandres, c'est elle qui leur fournit le fer qui est extrait en Europe centrale, dont elle a besoin, dont les seigneurs ont besoin pour leurs épées. Bon, elle devient indispensable. Mais elle se heurte à ses seigneurs. Et pendant toute une période, elle ne fait pas du tout le poids. Bon. Et elle va avoir besoin d'un allié. Et cet allié, elle va le trouver en la personne du roi, qui est le, pourtant, c'est paradoxal, qui est le représentant du système féodal. Mais justement, le roi, en fait, c'est un seigneur comme un autre pendant toute une période, au début du Moyen-Âge. Et pour s'imposer face aux autres seigneurs, eh bien, il va prendre appui sur la bourgeoisie. Et il y a une espèce d'alliance qui se noue, et c'est vraiment, ça devient une politique délibérée de la part de la monarchie, de s'appuyer sur la bourgeoisie pour mater la noblesse, pour construire un État centralisé, pour unifier un minimum un État royal, monarchique, mais de façon à pouvoir acquérir une certaine puissance. Et donc, il y a cette alliance qui se noue et qui va permettre à la bourgeoisie de développer ses affaires, de grimper dans la société, de s'enrichir, de s'intégrer même à l'appareil d'État, en partie, puisque au bout d'un moment, eh bien, ils acquièrent le droit d'acheter des charges, donc des responsabilités au sein de l'appareil d'État. Et donc, on pourrait croire que bon, bah, ça suffit à la bourgeoisie. Bah, en fait, non. Parce que ça va favoriser son développement, mais au bout d'un moment, elle se heurte quand même au fait que cet État n'est pas le sien. Et que la noblesse est devenue une espèce de classe parasitaire qui ne joue plus aucun rôle dans la société, mais vraiment plus aucun, ni dans l'économie, ça fait longtemps, à la veille de 1789, mais qui s'accroche à ses privilèges. Et donc la bourgeoisie, pour pouvoir passer un cap supplémentaire, va devoir prendre la tête d'une mobilisation révolutionnaire, qui va amener la destruction de cet appareil d'État féodal, enfin de ce qui reste de ses liens avec la féodalité, qui va amener une révolution sociale qui va faire couper les racines complètement de la noblesse, et qui va permettre de jeter les bases, c'est sous Napoléon, hein, c'est d'actualité, on nous parle beaucoup de Napoléon, et ben voilà, ben son œuvre à un moment donné, à la fin de la révolution, ça a été de stabiliser la situation et de mettre en place l'ossature de ce qui va devenir vraiment l'appareil d'État au service exclusif de la bourgeoisie. Et cette ossature politique, administrative en tout cas, et ben finalement, elle n'a pas beaucoup évolué depuis aujourd'hui. Un autre sujet d'actualité, c'est les préfets. Bon, ben c'est une invention de Napoléon, quoi. Voilà. Donc c'était pour ça qu'on a abordé cette période, toute cette histoire.
Un autre thème que tu abordes, c'est l'attitude des militants communistes, de Marx et de ses partisans. Et plus généralement, le mouvement ouvrier au XIXe siècle, quel est son comportement, quelle est son attitude face à cette bourgeoisie qui veut à tout prix défendre son système et s'appuie sur l'État pour ça?
Bah, en effet, en même temps que avec le développement de la bourgeoisie, bah, se développe aussi un mouvement ouvrier, une classe ouvrière. Et le problème se pose très vite de quelle attitude avoir par rapport à la bourgeoisie qui mène un combat contre la féodalité, ou ce qu'il en reste au XIXe siècle, et puis c'est un combat qui reste vraiment à mener en France et puis dans bien d'autres pays. Cette classe bourgeoise, bah, c'est aussi la classe exploiteuse. Et donc, quelle attitude avoir? Et Marx, il est partisan, il développe ça dès le début, il commence ça dans le manifeste du Parti communiste, il commence par expliquer effectivement le rôle révolutionnaire de la bourgeoisie dans son combat contre la féodalité. Et il pense que le prolétariat ne peut pas être neutre dans ce combat, il doit participer à tous ces combats qui se mènent contre ce qui reste de l'ancien ordre féodal. Mais tout en regardant son indépendance politique, absolument, le prolétariat doit participer à ces combats, mais doit aussi préparer le combat d'après, le sien, celui qui doit l'amener à renverser la bourgeoisie et à prendre le pouvoir. Et c'est cette double préoccupation, finalement, pendant tout un temps, qui va guider Marx et les militants du mouvement ouvrier. Et parce que pendant toute cette période, tout au long du XIXe siècle, dans la mesure où l'action de la bourgeoisie garde un caractère progressiste quand elle s'oppose à ce qui reste de l'ordre féodal, son État, lui aussi, son intervention a un caractère progressiste. Pour ne prendre qu'un exemple, en France, par exemple, en 1880, dans les années 1880, l'État républicain qui se met en place va mettre en place des lois scolaires, hein, qui permettent à plein de gens, plein de travailleurs qui jusque-là n'étaient pas dans leurs enfants, qui n'avaient pas le droit à l'éducation, d'accéder un peu davantage, à un minimum, apprendre à lire, à écrire. Oui, ça c'était une mesure qui avait un caractère progressiste et ça était destiné à lutter contre l'influence de l'Église, qui elle était monarchiste. Donc c'est vraiment ce combat contre ce qui reste de l'ordre féodal. Mais d'un autre côté, les militants ouvriers de cette époque, les militants des partis socialistes naissants, eh bien pour autant n'apportaient absolument pas leur soutien à l'État de la bourgeoisie. Parce qu'ils n'oubliaient pas que cette école de la République, c'était aussi une école du patriotisme, où on apprenait aux enfants d'ouvriers à se préparer, à aller mourir pour défendre les intérêts des classes possédantes. Et puis c'était aussi cet État qui, en se mettant en place en 1871, avait réprimé dans le sang la Commune de Paris, le premier pouvoir ouvrier. Et puis c'était le même État qui, à tout moment, faisait réprimer les grèves ouvrières, qui a fait celui qui a fait massacrer, mitrailler les ouvriers à Fourmies lors du 1er mai 1891. Alors, pour reprendre une formule qui était celle des socialistes allemands, l'attitude des révolutionnaires, c'était qu'ils devaient absolument préparer leur combat pour renverser cet État. Et leur devise, c'était « pas un sou, pas un homme pour ce gouvernement ». Notre combat, c'est le combat pour renverser cet État bourgeois, quelles que soient les mesures qu'ils prennent.
À la fin du XIXe siècle, il se passe quelque chose d'important, c'est l'apparition de l'impérialisme. Et avec ça, tu expliques, et tu évoques dans l'exposé, que la bourgeoisie, elle a cessé d'avoir un rôle historiquement progressiste, et en particulier à travers le rôle de l'État. Et tu évoques, par exemple, la Première Guerre mondiale, pour illustrer ce propos.
En effet, à la fin du XIXe siècle, il y a quand même une évolution très importante que tous les militants de l'époque constatent. C'est l'apparition d'entreprises de plus en plus importantes, des entreprises géantes, ce qu'on a appelé des trusts. Et avec ce phénomène, on se retrouve à ce que dans chaque branche, il y a une minorité, quelques entreprises, parfois une dizaine, qui sont en situation de quasi-monopole, qui sont en situation de se partager le marché, de fixer les prix, et quasiment d'organiser finalement, de se répartir les parts de marché. Alors, ça ne supprime pas la concurrence, mais quand même, ils arrivent à la limiter, voire à la supprimer pendant certaines périodes. Et du coup, ce caractère un peu progressiste qu'a pu avoir de développement, qu'a pu avoir le capitalisme, à cette période, il cesse de l'avoir, de plus en plus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et comme ça a une conséquence aussi dans les relations entre les capitalistes et l'État, parce que ces entreprises acquièrent un poids gigantesque, ce sont des masses de capitaux de plus en plus importantes, ça leur donne une puissance sociale qui leur permet, qui les met en situation de plus en plus de dicter leur volonté à l'État. Et on assiste ainsi de plus en plus à la mise sous tutelle quasiment de l'État par cette poignée de ce qu'on peut appeler le grand capital, finalement. Et ça va s'accélérer avec la Première Guerre mondiale. Parce que, avec la Première Guerre mondiale, c'est une guerre pour le partage des marchés, et les États sont complètement au service de la bourgeoisie. Mais ils vont devoir avoir un rôle, là, très important, pour organiser l'économie de guerre. Parce qu'il y a des millions d'hommes armés, équipés, il faut des obus en quantité, c'était pas prévu du tout. Donc, ils doivent rapidement mettre en place une économie de guerre. Et il planifie la production, il l'organise. Il faut répartir la matière première, répartir la main-d'œuvre, fixer les prix. Et ce sont des prix élevés qui garantissent des profits à la bourgeoisie. Parce que tout ça se fait en collaboration étroite avec les plus grands capitalistes. Et on arrive à cette situation finalement où on a l'économie, on a des capitaux privés. En France, par exemple, l'État va payer à André Citroën la construction d'une usine. En 6 mois, elle va être construite, Quai de Javel, une usine destinée à cette époque à produire des obus. L'État a tout payé, mais l'usine appartient à M. Citroën. Et il va en garder la propriété ensuite jusqu'à... c'est une usine qui a fermé, je crois, dans les années 70. Qui restera celle du groupe Citroën jusqu'au bout. Et c'est ainsi qu'effectivement, on a un État qui organise l'économie, mais au service des plus grands capitalistes. Alors, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on peut constater à cette époque, c'est le début d'un phénomène qui, là aussi, ensuite, est promis à beaucoup d'avenir, c'est l'intégration du mouvement ouvrier. Parce que la bourgeoisie, et là, c'est très conscient de sa part, elle s'attend avec la guerre à ce qu'il y ait des réactions C'est une boucherie sanglante, cette guerre, et elle s'attend à ce qu'il y ait des réactions des populations. Et donc, pour se donner une assurance, pour garantir, se garantir contre les révoltes populaires et ouvrières, eh bien, elle va associer à l'effort de guerre le mouvement ouvrier, enfin les dirigeants du mouvement ouvrier. Et elle aura pas de mal pour ça, parce que pour toute une couche de bureaucrates qui s'est développée, pour ces députés, des gestionnaires de coopératives, des journalistes, eh bien, c'est des perspectives nouvelles de promotion sociale. Et c'est ça qui va être finalement, qui va devenir pour eux prédominant. Et en France, en août 1914, eh bien, donc dès le début, il y a trois ministres, trois socialistes qui feront leur entrée dans le gouvernement. Et l'un d'entre eux, Albert Thomas, est d'abord sous-secrétaire d'État aux munitions et ensuite, en 1916, ministre de l'armement. Et c'est lui qui va organiser, en collaboration très étroite avec le patronat, l'effort de guerre. Et si c'est fait se connaître comme étant le ministre qui fait des tournées dans les usines pour appeler les travailleurs à participer à l'effort de guerre, à ne pas faire grève, etc. Et ça, c'est un rôle que la bourgeoisie, c'est un instrument de plus qu'elle se donne pour domestiquer le mouvement ouvrier. Et ça, c'est quelque chose aussi qui démarre à ce moment-là et qui va durer, qu'on voit jusqu'à aujourd'hui.
Dans les années 30, avec la crise qui aura pour conséquence la Deuxième Guerre mondiale, on voit que l'État intervient de plus en plus dans l'économie. Et son but, on a bien compris, c'est de défendre le système en faillite de la bourgeoisie. Est-ce que tu peux expliquer cela ?
Ben oui, c'est tout à fait ça. La préoccupation de l'État, c'est de sauver les bourgeoisies d'une véritable faillite. Parce qu'avec la crise de 1929, dans un certain nombre de pays, enfin un peu partout, c'est un effondrement. Il y a une explosion du chômage, et l'économie se trouve quasiment à l'arrêt. Dans certains pays, comme en Allemagne, c'est l'effondrement quasi total. Donc l'État doit intervenir pour sauver la bourgeoisie. Et en Allemagne, par exemple, où la situation est la plus catastrophique et la plus dramatique pour des millions de personnes, si la bourgeoisie veut s'en sortir, il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'elle parte, qu'elle conquiert de nouveaux marchés, parce qu'elle se retrouve bloquée par ses concurrents, elle a perdu la Première Guerre mondiale, et pour ça, eh ben, il faut que se mette en place un État fort, capable de réarmer l'Allemagne, capable de mettre sur pied une industrie de guerre, une économie de guerre, et capable aussi de mater la classe ouvrière, de la mettre au pas, de détruire le mouvement ouvrier, parce que ça va signifier imposer des sacrifices considérables à la population. Et donc en choisissant de porter, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, de porter Hitler au pouvoir et le parti nazi, elle a fait le choix de se donner les moyens de cette politique, et en sachant très bien quelles conséquences ça allait pouvoir avoir. En fait, la société se retrouve transformée en une véritable caserne où les nazis, la Gestapo, tout l'appareil d'État fait régner la terreur, et où l'économie est mise au service des grands trusts, parce que ça se fait là encore avec la collaboration des plus grands capitalistes qui se retrouvent à pouvoir avoir à leur disposition la main d'œuvre, les matières premières, et puis toutes les petites entreprises qui pourraient gêner, voilà, et bah il y a des lois de cartélisation qui sont prises pour leur imposer, pour certaines c'est la dissolution, voilà, tout pour les plus grosses entreprises et tout pour la guerre. Alors ça c'est en Allemagne avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. À la même époque, il y a une autre bourgeoisie qui fait un autre choix parce qu'elle en a, elle a davantage de moyens, c'est la bourgeoisie américaine. Et c'est la mise en place du New Deal avec Roosevelt à partir, là encore, de 1933. C'est pas un hasard si c'est vraiment les mêmes dates. Et là, c'est une politique qui consiste non pas, là encore, il n'y a pas l'encadrement économique comme il a lieu en Allemagne, mais il s'agit quand même de sauver la bourgeoisie, de relancer l'économie par des injections de capitaux publics. L'argent public sert à des grands travaux. Et la différence avec l'Allemagne, c'est que la bourgeoisie américaine, elle a les moyens non pas de détruire le mouvement ouvrier, mais de l'acheter. Voilà. Et la politique du New Deal, c'est favoriser l'émergence de syndicats réformistes capables de canaliser la colère ouvrière, capables de canaliser le mécontentement ouvrier. Et donc ça, c'est deux politiques. En France, il y en a une autre, c'est celle du Front Populaire, mais qui ressemble beaucoup en fait au New Deal. C'est un peu finalement la même, avec beaucoup moins de moyens, et où on voit un parti communiste, pour la première fois, participer vraiment, là aussi, à cette organisation de l'économie au service de la bourgeoisie. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucune de ces politiques n'a relancé l'économie. Aucune de ces politiques n'a permis au capitalisme de sortir de la crise. Ce qui va sortir le capitalisme de la crise, mais à quel prix? C'est la guerre mondiale. C'est pas le New Deal aux États-Unis qui a relancé l'économie américaine, c'est le Victory Program, à partir de 1942, qui a vraiment là, mis sur pied une économie de guerre. Il s'agissait d'armées en un temps record, une armée de plusieurs millions d'hommes, avec des chars, des avions, des bateaux, etc. Et tout ça, ça s'est sorti des usines américaines en un temps record. Donc c'est ça qui a relancé l'économie. Et pas autre chose. Mais quand on voit le prix qu'a payé l'humanité, c'est quand même 50 millions de morts la Deuxième Guerre mondiale. C'est les camps d'extermination. C'est à la fin, c'est les bombes atomiques larguées sur Nagasaki, Hiroshima. Bon, c'est tout ça que l'humanité a payé. Et quand on voit, c'est pas venu de n'importe quels États, c'est les États les plus développés, les plus avancés, qui ont planifié, organisé la mort de millions d'hommes de cette façon-là, dans ces conditions-là. Et ça, ça juge finalement ce qui est capable de faire aujourd'hui la bourgeoisie et l'État qui est à son service.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les États ont joué un rôle très important dans la reconstruction des pays d'Europe. Peux-tu nous donner un exemple à travers la France ?
En France, par exemple, l'État a joué un rôle direct et très actif dans la reconstruction de l'économie, au travers de nationalisations, dans divers domaines, le charbonnage, EDF, les banques, les principales compagnies d'assurance, la Banque de France. Voilà. L'État a nationalisé une partie importante de l'économie, c'est-à-dire qu'il a apporté un financement que la bourgeoisie était tout à fait incapable, et en tout cas ne voulait pas elle-même fournir, et qui était indispensable au redémarrage de l'économie, à la reconstruction d'un pays qui était vraiment très dévasté par la guerre. Et donc, toute une partie de la gauche réformiste, aujourd'hui, nous présente cette période comme une période avec des acquis sociaux auxquels on devrait, des acquis sociaux comme la sécurité sociale, et donc ce serait finalement une heure glorieuse du mouvement ouvrier. Et bien, c'est pas du tout le cas quand même, parce que toutes ces mesures dites sociales, à l'époque, elles servaient à justifier auprès de la population des sacrifices énormes qui lui ont été imposés. Le Parti communiste a utilisé ses acquis sociaux, ses prétendus acquis sociaux, pour imposer à la classe ouvrière de contribuer à cet effort et la faire taire. C'était la grève, il fallait pas la faire. La grève, c'était l'arme des trusts. Il y avait une bataille de la production, donc il fallait produire d'abord, revendiquer ensuite. Et donc, de ce point de vue-là, d'une façon, le Parti communiste et ses ministres et les militants dans les entreprises qui ont dû suivre cette politique, se sont retrouvés à être des auxiliaires vraiment de la bourgeoisie pour lui permettre de reprendre une position importante sur la scène économique mondiale. Bon. Donc ça, c'était le rôle de cette période. Et il n'y aurait pas eu de reconstruction sans l'intervention de l'État, mais le rôle de l'État ensuite s'est poursuivi. En réalité, il a joué ensuite, dans les années 50, l'État n'a cessé d'intervenir et a joué un rôle sans lequel la bourgeoisie n'aurait pas pu continuer à faire ses affaires. Par exemple, la politique de l'État français dans les années 50 et 60, ça a été de constituer, dans les domaines en particulier de l'énergie, la construction d'infrastructures, des grands groupes importants. Et là, par exemple, on peut prendre l'exemple de Elf, la société Elf, parce que ils ont réuni dans cette société, l'État a réuni toutes les activités pétrolières contrôlées par l'État. Et ça a donné naissance à un groupe important. Et à un groupe qui a eu un rôle vraiment très important, un pilier de l'impérialisme français en Afrique. C'est devenu, c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. C'est devenu le relais de la politique des présidents de la République et des gouvernements dans ces pays d'Afrique. Ils avaient à leur main tous les chefs d'État, ça leur permettait de piller les richesses de ces pays, et ça permettait à la bourgeoisie française d'avoir une présence en Afrique. Et à un moment donné, on a un groupe public important, dans les années 2000, il y a un petit groupe privé à l'époque, beaucoup moins important, Total Fina, qui rachète Elf. Et ça devient le groupe Total qu'on connaît actuellement, et qui est maintenant un groupe privé. Et donc c'est un groupe public qui a été bâti par l'État, qui a joué un rôle indispensable, enfin très important dans la défense des intérêts de la bourgeoisie en Afrique en tant que groupe public, et puis ensuite qui est devenu une pompe à fric, cette fois-ci pour des actionnaires privés. Et de cette façon-là, ça illustre un peu les différentes façons pour l'État de servir les intérêts de la bourgeoisie, et on pourrait multiplier les exemples.
Alors justement, aujourd'hui, on est aussi dans une crise économique, comme dans les années 30. Et les États interviennent massivement pour essayer de sauver le système et maintenir les profits de la bourgeoisie coûte que coûte. Alors, entre aujourd'hui et hier, est-ce qu'il y a des différences? Parce que c'est le même type d'intervention.
Alors, c'est vrai que, finalement, comme dans les années 30, on se retrouve avec un État qui doit sauver les profits de la bourgeoisie. Parce que la crise, on la connaît, on est dedans depuis les années 70, ça fait finalement 50 ans que le capitalisme est en crise et que cette crise ne cesse de s'aggraver. Et la bourgeoisie, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle rechigne de plus en plus au fil des années, au fil de l'aggravation de cette crise, elle rechigne de plus en plus à immobiliser des capitaux dans des activités productives et de plus en plus elle concentre ses capitaux dans des activités financières qui sont beaucoup plus immédiatement rentables et avec des taux de rentabilité bien plus importants. Alors, l'État, la bourgeoisie lui demande de pouvoir mettre à sa disposition non plus des commandes d'État, non plus des marchés, enfin elle le fait toujours, mais c'est plus sa priorité quand même. Maintenant, elle veut de l'argent, elle veut du cash, elle veut du capital dont elle puisse disposer à sa guise et rapidement. Et donc, la façon d'intervenir de l'État évolue au fil de ces années. Et par exemple, en France, on s'aperçoit qu'à partir des années 1990, l'aide de l'État, c'est de plus en plus des dégrèvements d'impôts, des exonérations fiscales, des allègements dans plein de formes, enfin tout ce qui est de nature à permettre à la bourgeoisie de disposer de masses d'argent qu'elle peut utiliser comme elle veut. Et en fait, comment elle l'utilise? De plus en plus à la spéculation financière. Et on se retrouve dans une situation où l'État est de plus en plus incapable finalement d'assumer des missions d'intérêt général, comme ça pouvait être le cas à une certaine période, parce qu'il doit mener une politique d'économie. Et donc d'économie dans les écoles, d'économie dans les hôpitaux, tout ça pour pouvoir dégager cet argent, pouvoir le mettre à la disposition de la bourgeoisie. Et le résultat, on le voit aujourd'hui, avec la crise sanitaire, où on a pu constater dans quel dénuement en étaient arrivés les hôpitaux, les EHPAD. Et tout ça, c'est le produit de cette politique de la bourgeoisie et de ces exigences qu'elle impose à l'État qui est à son service. Et on ne peut pas attendre de l'État une autre politique. Parce que c'est vraiment la bourgeoisie qui lui dicte, de ce point de vue-là, sa politique et les mesures qu'elle doit prendre. Alors, je sais bien que justement, c'est une discussion importante aujourd'hui, parce que finalement, pour reprendre sa marche en avant, la société, l'ensemble de l'économie, elle va devoir en fait s'opposer à la bourgeoisie. Il faut que les travailleurs soient capables pour défendre évidemment leurs intérêts, pour défendre vraiment leur peau, parce que là, c'est avec l'explosion du chômage, c'est de ça dont il est question, mais pour aussi s'opposer à cette régression qui maintenant est engagée depuis des années, les travailleurs vont devoir s'opposer à la bourgeoisie et aller jusqu'à être capable de lui prendre le pouvoir, de l'exproprier, de prendre le pouvoir pour réorganiser la société, pour faire en sorte que toutes les technologies, les progrès techniques dont on dispose aujourd'hui soient mises vraiment utilisées au service de la société et non plus à la logique du profit, de profit immédiat que cette couche de la bourgeoisie qui est devenue vraiment elle aussi à son tour complètement parasitaire impose à la société. Ça suppose que la classe ouvrière soit capable de prendre le pouvoir et de détruire l'appareil d'État. Et de mettre en place un État qui soit vraiment le sien. La bourgeoisie, à une époque, a eu besoin de faire sa révolution pour mettre en place son État. La classe ouvrière, les travailleurs, auront besoin, eux aussi, de faire cette révolution et de mettre en place un État qui soit vraiment le sien. Alors, je voudrais conclure quand même sur une idée qui, pour nous, est importante. C'est qu'en tant que communistes, nous ne sommes pas des adorateurs de l'État. C'est-à-dire que l'État ouvrier, pour nous, ce n'est pas la fin de l'évolution, c'est une étape là aussi. Parce que nous pensons que cet État est lié à l'existence de classes sociales et qu'au fur et à mesure que la classe ouvrière, les travailleurs au pouvoir seront capables de faire disparaître ces classes sociales et toutes les inégalités et toutes les formes d'oppression qui en découlent, l'existence d'un tel État, lui aussi, deviendra superflu et que cet État disparaîtra. Pour reprendre une autre formule d'Engels, puisque j'ai commencé par en citer Engels, je voudrais terminer par le citer, il disait que finalement, les travailleurs, on sera capable de renvoyer l'État au musée des Antiquités, à côté de l'âge de bronze, et ce sera la place que nous, en tant que communistes, on espère pouvoir lui réserver un jour.
Merci Marc pour cette présentation. Chers camarades, c'est la fin du cercle Léon Trotsky. Très rapidement, il y aura le texte intégral de l'exposé sur le site Lutte Ouvrière et viendra aussi la brochure que vous pourrez vous procurer très vite. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain Cercle Léon Trotsky, en espérant que ce sera en présentiel dans une salle accueillant du public, tous ensemble, en vrai.